Bienvenue chez vous sur France Bleu La Rochelle. Chloé Bidet.
Bienvenue chez vous dans les Deux-Charentes comme chaque jour. Il est 10h04, on espère que vous passez une belle matinée. C'est l'occasion de découvrir celles et ceux qui font l'activité de nos Deux-Charentes au travers de leur passion, leurs engagements, leurs métiers, leurs expériences. Et aujourd'hui, nous allons vous parler d'une association Wings of the Ocean. Pour ça, nous sommes avec Théo et Guillaume qui font tous les deux partie de cette association. Théo, responsable de la mission bateau du SILA, donc on va évoquer ce matin aussi sur France Bleu La Rochelle, et Guillaume, bénévole dans l'association. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Bonjour.
Et merci d'être avec nous. Alors en quelques mots, Théo, est-ce que vous pouvez présenter déjà ce qu'est l'association Wings of the Ocean ?
Alors Wings of the Ocean, c'est une association créée en 2018 qui a pour but de protéger l'océan en luttant contre les déchets sauvages, notamment plastiques.
Ça fait combien de temps que vous êtes dans l'association avec ce rôle ?
Oui. Alors moi, ça va bientôt faire 2 ans et demi que je suis dans l'association. Sur ce rôle de chargé de projet à bord du SILA, donc un des deux voyers de l'association, ça va faire la 2e année maintenant.
Et qu'est-ce qui vous a donné envie de rejoindre cette aventure ? Comment vous avez découvert l'association ?
Alors, l'association, j'ai découvert via Internet, via les réseaux sociaux. J'ai une forte appétence pour le monde maritime depuis que je suis tout petit. Je fais de la voile depuis que je suis tout petit. Et une certaine sensibilité pour l'environnement qui s'est développée grâce à ça. Et j'ai voulu faire de mon métier quelque chose qui était en accord avec mes valeurs.
Qui a du sens,
du coup. Qui a du sens, ouais.
Pour vous. Et vous, Guillaume, alors, en tant que bénévole, ça fait combien de temps que vous avez rejoint Wings of the Ocean ?
Moi, du coup, c'est ma 2e mission là que je fais, donc j'ai fait une première mission au mois de novembre à la ville de Sète, et là j'ai rejoint l'association donc depuis une semaine pour ma 2e mission sur La Rochelle.
Mission qui va consister en quoi pour vous en tant que bénévole ?
Eh ben, on est plusieurs bénévoles du coup là sur le voilier, le SILA qui est au port de La Rochelle. On va être jusqu'à un équipage de 12 personnes. Donc chacun avec nos petites missions. Par exemple pour moi, ce sera m'occuper principalement de la communication et des produire du contenu, donc faire des photos, faire du contenu vidéo pour faire connaître un petit peu l'association. D'autres personnes qui s'occupent plus des missions de dépollution, d'autres de sensibilisation du public. Donc on a un peu tous nos petits rôles. Mais après, ce qui est important aussi, c'est que on va tous également participer à toutes les tâches communes. Enfin, même moi, en m'occupant principalement des photos, je vais être amené à accompagner mes collègues bénévoles sur les missions de dépollution, sur les missions de sensibilisation dans les écoles auprès du public. Donc voilà, il faut qu'on soit un peu tous multitâches, et c'est ça qui est assez intéressant.
Et comment vous avez découvert l'association, vous, de votre côté ?
Eh ben, moi, c'est arrivé par mon parcours professionnel. À côté de mes engagements bénévoles, je suis marin professionnel, et c'est vrai que du coup, en naviguant sur les océans, je me suis durant mes études et puis même durant mes premières expériences de navigation, je me suis vite rendu compte qu'effectivement, en fonction des zones où on naviguait sur la mer, sur les océans, notamment à proximité des métropoles, dans les embouchures de fleuves, on trouvait effectivement concentration de déchets beaucoup plus importante qu'ailleurs. Donc effectivement, ça élève beaucoup de questions sur l'origine de nos déchets, comment ça se fait qu'ils se retrouvent dans les océans. Et donc je me suis dit, voilà, qu'est-ce que je peux faire pour m'engager sur mon temps libre, qu'est-ce que je peux faire pour aider un petit peu à cette cause-là. Et donc c'est comme ça que j'ai découvert l'association Wings of the Ocean, qui en plus réunit à la fois donc ma passion pour le monde maritime et mon souhait de m'engager pour cette cause. Ouais.
Et on va continuer à en parler avec vous aujourd'hui donc sur France Bleu La Rochelle, Théo et Guillaume qui font partie de l'association Wings of the Ocean. On verra comment ça se passe aussi en mer sur la partie culinaire avec Julie qui est bénévole cuisinière justement sur les bateaux pour l'association et qui sera avec nous d'ici quelques instants pour nous raconter elle s'est engagée bénévolement là-dedans, et puis aussi ce que vous mangez tout simplement en mer. On verra comment ça se passe.
Cuisine, patrimoine et découverte. Bienvenue chez vous jusqu'à 11h sur France Bleu La Rochelle.
Bienvenue chez vous, c'est votre émission chaque jour pour découvrir des métiers, des passions, des projets, des événements. Aujourd'hui, nous sommes avec l'association Wings of the Ocean qui s'occupe donc de dépolluer, de préserver notre environnement, en particulier l'océan, avec des missions. Il y a un bateau qui va bientôt partir, donc le SILA. On va évoquer tout ça donc avec nos invités Théo et Guillaume qui font partie de l'association. Et puis vous avez décidé du coup de mettre en avant une de vos collègues, une autre bénévole, Julie. Est-ce que vous pourriez la présenter en quelques mots, juste avant qu'on l'accueille dans quelques secondes?
Julie, c'est une personne qui est engagée dans l'association depuis plus de 2 ans. Elle est chef, donc cuistot de formation, et elle vient pour des périodes plus ou moins longues à chaque fois pour cuisiner à bord des bateaux de l'association.
Bonjour Julie.
Bonjour.
Et merci d'être avec nous sur France Bleu La Rochelle. Alors vous, quel est votre parcours ? Vous êtes chef de formation. Comment est-ce que vous avez découvert l'association et qu'est-ce qui vous a donné envie de vous engager comme ça sur les bateaux ?
Alors, moi, j'ai eu une autre vie, une vie de travail de bureau, on va dire, plus classique auparavant.
Oui.
Et quand j'ai eu 25 ans, j'ai eu des questions existentielles, on va dire. Et j'ai voulu me rapprocher, du coup, de valeurs qui étaient plus chères à mon cœur, de donner plus de sens à ma vie. Et à ce moment-là, il y avait vraiment la cuisine qui était vraiment ma passion depuis... C'était vraiment un fil conducteur tout au long de ma vie. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à rejoindre des associations pour cuisiner, pour donner du temps... À des causes qui me tiennent à cœur.
Quel et genre depuis, d'association est-ce que vous avez faite pour lesquelles vous avez travaillé
alors,
du coup à ce moment-là?
Je partage mon temps entre Sea Shepherd et Wings of the Ocean.
D'accord.
Et du coup, depuis maintenant, ça fait 4 ans que j'ai entamé ce chemin-là. Et depuis, j'ai fait une école de cuisine et depuis, je suis vraiment devenue un vrai chef.
Ah bah c'est chouette ça. Ça vous a plu le côté formation aussi d'apprendre, de revisiter peut-être des techniques si c'était de la cuisine amateur entre guillemets avant que vous cuisiniez peut-être
oui.
pour vos proches.
Oui c'est ça. Surtout en fait en ayant fait une transition vers l'alimentation végétale, les techniques de cuisine quand on veut vraiment monter en compétence ne sont pas les mêmes qu'en cuisine traditionnelle. Donc c'est pour ça qu'il est important d'apprendre ces autres techniques et une fois qu'on les a apprises en fait on se rend compte qu'on peut vraiment tout cuisiner. Et que la cuisine végétale n'a vraiment pas grand-chose de différent avec la cuisine plus traditionnelle française.
Et c'est vrai qu'il y a autant d'apports et de choses, et ça fait partie forcément des engagements pour les associations. Comment s'articule votre quotidien, du coup, Julie, par rapport à ça? Vous partez sur des missions à l'année, sur plusieurs mois. Comment ça s'articule pour vous?
En général, je fais des missions de 3 ou 4 mois, donc sur des bateaux, donc embarqués ou au port, parce qu'il y a aussi pas mal de périodes de chantier naval. Et donc en fonction, en fait, quand on est au port, ça va être vraiment une cuisine de restauration collective habituelle, comme une cantine. Et quand on est en mer, ça va être avec des spécificités donc plus différentes suivant le temps, suivant comment la météo est, comment est le bateau. Et pour les approvisionnements aussi, évidemment, ça change beaucoup de choses.
Vous aviez le pied marin avant ou c'est vraiment le hasard qui fait que vous êtes retrouvée du coup sur les bateaux?
Je viens du Finistère, donc oui, j'avais certainement le pied marin. Mais j'ai toujours eu mal de mer.
Encore aujourd'hui?
Oui, toujours, ouais.
Et comment on fait? Il y a des petites techniques quand même qui font qu'on peut lutter contre ce mal de mer ou on peut pas contrôler du tout?
On peut lutter jusqu'à un certain point. Le gingembre aide beaucoup pour la nausée, mais après il faut prendre sur soi.
Forcément, oui, ça doit faire partie du jeu. Vous allez nous parler de ce que vous cuisinez dans un instant. On parlait de cuisine végétarienne, donc ça fait partie aussi des engagements forcément de l'association et ça compte pour l'équipage. On parlera donc des différentes choses que vous allez proposer, notamment sur le SILA, prochaine mission. Julie, bénévole cuisinière donc pour Wings of the Ocean. Et Sea Shepherd est à nos côtés, ainsi que Théo et Guillaume donc de l'association Wings of the Ocean. On joue et on vous offre votre boîte de chocolats Léonidas. Il y a une quarantaine d'œufs de Pâques à retrouver dedans, avec du praliné, du caramel, les pétillants, un trio de chocolat aussi. Ça, c'est la petite nouveauté de 2024 qui s'est glissée dans ce joli assortiment. Mais pour ça, il faut répondre à cette question. Parmi les Européens, quel pays, à votre avis, est le plus gros consommateur de chocolat? Est-ce que c'est la Suisse, la France ou l'Allemagne? Parmi les Européens, quel pays, à votre avis, est le plus gros consommateur de chocolat? La Suisse, la France ou l'Allemagne? Sachant que le gagnant est à presque 9 kilos par an et par habitant, ce qui n'est pas rien. 05 46 50 67 68 pour nous faire votre proposition, donner votre réponse pour repartir avec cette boîte de chocolat de Pâques Léonidas. Quel pays, à votre avis, est le plus gros consommateur de chocolat en Europe? La Suisse, la France ou l'Allemagne? Bonne chance à vous.
Bienvenue chez vous. Une heure au cœur de notre région. 10h-11h sur France Bleu La Rochelle.
On joue et on vous offre ce matin votre assortiment, votre boîte de chocolat Léonidas à l'occasion de Pâques. Ça approche à grands pas, ce sera ce week-end. Et c'est Christiane qui est avec nous depuis Étré. Bonjour Christiane.
Bonjour Chloé.
Comment ça va sous ce magnifique temps, pas du tout nuageux et pas du tout pluvieux?
Écoutez, on reste à l'abri.
Oui, ça ira
quand
mieux cet après-midi. Est-ce que vous avez prévu quelque chose pour Pâques, ma chère Christiane?
Non, mais je pense qu'on va aller à Châtelaillon parce que c'est toujours très très beau, les cerfs-volants.
Eh ben oui.
Voilà, on va faire ça s'il fait beau en vélo et ce sera très agréable.
Ah oui, bah c'est vrai que ça fait une petite balade sympa depuis Étré pour rejoindre Châtelaillon.
Oh, il y a 13 kilomètres, c'est pas énorme, et puis par le bord de mer, c'est agréable.
Eh ben on y sera hein, d'ailleurs sur le festival du cerf-volant de 10h à midi samedi, si vous voulez passer nous voir et faire un petit coucou. On sera aussi présent sur cet événement. Bon, On parlait de chocolat quand même, s'il y a cette boîte de chocolat à gagner ce matin, ce bel assortiment Léonidas. Et je posais cette question, parmi les Européens, quel pays, à votre avis, est le plus gros consommateur de chocolat? Est-ce que c'est la Suisse, la France ou l'Allemagne?
J'ai dit la Suisse.
Eh oui. Vous avez dit au hasard ou vous saviez?
Non, je ne savais pas, c'était au hasard.
Eh bien, vous avez bien fait. C'est vrai qu'on en trouve pas mal de chocolat en Suisse et des bons chocolats. Et effectivement, ce sont les plus gros consommateurs, 9 kilos par an et par habitant en Suisse. C'est ce qui est quand même une belle consommation.
Énorme, ouais.
Oui. À votre avis, en France, nous, on est à combien? Vous diriez quoi?
Aucune idée, peut-être 7, je ne sais pas.
Non, 4 kilos 2, on est plus modeste.
Oh là
hein.
Là, non, on n'est pas gourmand alors.
Bon, ce qui reste quand même pas mal, et l'Allemagne est bien classée aussi, ils sont bien en haut du classement avec les Suisses.
D'accord.
Bon, en tout cas, c'est gagné pour vous, Christiane. Vous allez pouvoir vous régaler donc avec cette quarantaine de chocolat avec un différent assortiment. Donc, vous allez pouvoir tester toutes les spécialités de Léonidas avec ses bons œufs en chocolat.
Eh ben, merci France Bleu.
Avec grand plaisir. À partager ou pas, ça c'est à vous vous de choisir.
Je partagerai quand même.
Bonne journée, Christiane.
À vous aussi. Au revoir.
Et à très bientôt. Il est 10h21, on continue à parler de l'association Wings of the Ocean qui va bientôt reprendre la mer et sensibiliser donc un petit peu partout en France avec son bateau le Scylla. Théo et Guillaume sont bénévoles et sont à nos côtés. On est aussi avec Julie qui cuisine donc sur le bateau de Wings of the Ocean et aussi chez Sea Shepherd. On parlait de votre expérience, Julie, il y a quelques instants. Et maintenant, vous allez nous dire un petit peu le programme. Quand on est à quai, nous l'avez dit, la cuisine est un petit peu différente. Qu'est-ce que vous proposez en ce moment du coup aux bénévoles qui sont à vos côtés comme type de repas?
Alors, ça va dépendre beaucoup des équipages que j'ai, parce que j'ai vraiment à cœur de nourrir tous les équipages avec du confort, des bons nutriments et puis leurs besoins chacun suivant les allergies, les intolérances. Mais par exemple, cette semaine, on a fait un repas mexicain, par exemple, un burrito avec des nachos, etc. Là, ce midi, ils vont manger un dalle de lentilles avec du liquide fumé et de la fumée liquide. Et ce soir, ce sera des bouches à la reine.
Très bien.
Et puis vendredi, il y aura la fameuse soirée burger dont les équipages d'ici là sont habitués et qu'ils aiment beaucoup.
Ah, vous faites des soirées thématiques. Théo, je vous vois hocher la tête.
Oui.
Ça fait partie un petit peu des traditions qu'on instaure un peu à bord.
Oui, c'est Julie qui a fait ses propositions. Et puis nous, des bons burgers maison, on prend toujours. On suit.
Qu'est-ce que vous cuisinez en mer, Julie? Du coup, ça va changer un petit peu de formule. Vous allez devoir vous adapter et anticiper aussi par rapport à la navigation.
Sur le Scylla, vu qu'on fait des navigations de 2, 3, 4 jours, ça va dépendre. En général, je vais beaucoup cuisiner en avance et ce sera des plats qui sont soit passés simplement au four, soit à manger froid. Comme ça, c'est facile pour les équipages en fonction des quarts qu'ils font. Et ça dépend en fait des souhaits de chacun.
On reste aussi sur des recettes type dalle, comme vous proposez ce midi, ou ce genre de choses?
Ça dépend de la navigation. Ça dépend de la météo.
Aussi, ça joue. Et comment ça se passe d'ailleurs pour les courses, quand vous arrivez dans une autre ville, quand vous êtes en escale, vous repérez à l'avance, où est-ce que vous allez pouvoir vous fournir, vous approvisionner, établir vos recettes aussi, vous décidez aussi en fonction de l'escale?
Oui, bien sûr. Chaque fois, dès qu'on arrive dans un nouveau port, on se rapproche évidemment du coup du marché pour récupérer le maximum d'invendus, parce qu'on veut vraiment éviter le gaspillage alimentaire au sein de l'association. Et c'est aussi une façon de réduire le budget d'alimentation. Et ensuite aussi, on établit des partenariats avec des biocoop ou la Vie Claire. Ça dépend en fait les magasins qui vont proposer des alternatives végétales et bio dans la ville où on est.
Il y a souvent des propositions de plus en plus, heureusement, sur les escales. Est-ce que vous cuisinez aussi un petit peu de sucré, d'anka ou de ce genre de choses, le petit déjeuner ou autre?
Bien sûr, le petit déjeuner, le goûter ont une part importante dans le réconfort qu'on apporte aux équipages et ils ont besoin d'énergie et de comfort food après avoir fait des grosses évolutions.
Et on vous fait des demandes aussi quand vous embarquez à bord des bateaux comme ça, ou est-ce que vous adaptez
les équipages ou
oui, est-ce qu'ils vous demandent, par exemple, je sais pas, on a envie d'un gâteau au yaourt, un gâteau au chocolat?
Bien sûr, ils vous demandent des spécificités. Évidemment, pour les anniversaires, on s'adapte aux souhaits de chacun, mais bien sûr, je suis proche des équipages, donc ils peuvent venir dans ma cuisine pour me demander des requêtes, évidemment. Évidemment, toutes les suggestions sont les bienvenues.
Théo, est-ce que vous avez un plat que vous aimez manger en mer particulièrement, vous, il y a des, ou dans ce que la cuisine de Julie, il y a des choses qui vous plaisent plus?
Moi, je suis très dessert de base, donc je suis toujours friand quand elle nous prépare des petits desserts. Après, en navigation, ça dépend, bah, comme elle disait, l'état de la mer. Et du coup, mon état avec le mal de mer aussi, savoir s'il est passé ou pas.
On a plus ou moins envie de manger, du coup, dans ces moments-là.
Exactement.
Et vous, Guillaume, un plat un petit peu préféré aussi que vous aimez bien?
Pareil, je suis très dessert, donc je dirais une bonne mousse au chocolat. Il y en a des super cuistots qui nous font des super mousses au chocolat sans œufs parfois, en fonction des régimes de chacun. Donc, ouais, c'est valeur sûre. Même avec le mal de mer, une mousse au chocolat, ça se prend.
Bon, en tout cas, merci Julie d'avoir témoigné ce matin sur France Bleu La Rochelle de votre métier de bénévole en cuisine. Comme ça, c'était passionnant d'en apprendre un petit peu plus.
Avec plaisir.
Et puis, on vous souhaite une belle navigation et une bonne cuisine d'ici là. Donc, on va continuer à parler de l'association Wings of the Ocean, donc, qui va bientôt partir en mer pour sensibiliser autour de la pollution, de la préservation aussi de notre environnement. On continue à en parler avec Théo et Guillaume, qui sont tous les deux engagés dans l'association et qui sont à nos côtés jusqu'à 11h dans Bienvenue chez vous.
10h-11h, Bienvenue chez vous sur France Bleu La Rochelle. Chloé Bidet.
C'est Bienvenue chez vous, on est ravis de vous accompagner pour découvrir ce matin l'association Wings of the Ocean qui va bientôt partir en mer pour sensibiliser à la pollution, à la préservation de l'environnement et plus particulièrement des océans. On en parle avec Théo et Guillaume qui sont à nos côtés. Théo qui est responsable de mission sur le bateau le Scylla et Guillaume qui est bénévole qui sera lui aussi à bord forcément dans les prochaines semaines. Parlons un petit peu de ce bateau le Scylla pour visualiser à travers la radio. Il ressemble à quoi votre bateau? Comment on pourrait le décrire? Il vient d'où aussi? Quelle est son histoire?
Alors le Scylla, c'est un bateau d'exploration polaire tout en aluminium qui a été construit en 1991. Donc à l'époque c'était un propriétaire comme vous et moi qui avait les moyens et l'envie de créer ce bateau-là. Donc il l'a fait fabriquer sur plan. Donc il a eu quelques histoires d'autres vies avant jusqu'à ce qu'on le récupère. C'est un bateau qui nous permet d'accueillir jusqu'à 12 personnes à bord. Donc il fait 28 mètres de long, 6 mètres 50 de large, 74 tonnes. Donc c'est un beau bébé.
C'est un beau bateau, effectivement.
Et 3 mètres 40 de tirant d'eau quand même. Donc,
ce qui vous implique du coup d'anticiper aussi les arrêts sur le trajet, sur le projet.
Effectivement, on peut pas aller partout. Donc nous, on est vraiment sur la façade atlantique et la Manche. On peut pas rentrer dans tous les ports du fait à la fois de la longueur du bateau, de son poids et de son tirant d'eau. Donc il y a tout un travail de planification des escales en fonction des différentes contraintes techniques.
Comment est-ce que vous constituez du coup l'équipage? Qui va partir avec vous? Comment sont choisis les bénévoles qui seront à bord?
Alors c'est une des spécificités des missions itinérantes à bord des voiliers dans l'association. On a aussi des missions fixes sur les voiliers. Donc on a une partie d'équipage marin professionnel, donc avec un capitaine, donc actuellement un capitaine, une seconde et un chef mécanicien. Après donc il y a moi qui suis chargé de projet et le reste de l'équipage c'est des bénévoles donc qui ont ou pas de l'expérience en navigation et on essaie de trouver le bon équilibre qu'il faut. Chacun arrive avec ses forces, ses compétences et on a besoin un petit peu tout ça.
On apprend sur le tas aussi en étant sur le bateau, vous le disiez tout à l'heure Guillaume, tout le monde participe à un peu toutes les missions. Vous aussi vous transmettez du coup votre expérience de marin aussi aux autres.
Ouais, du coup, c'est ce que disait Théo, c'est qu'on a donc des profils assez différents, des personnes effectivement qui connaissent déjà un peu le monde maritime, qui ont peut-être même déjà eu des engagements bénévoles sur des voiliers, parfois sur des vieux gréements, sur toutes sortes d'expériences de navigation, et d'autres personnes effectivement qui n'ont pas forcément d'expérience de navigation, mais qui ont parfois des expériences au sein de l'association sur les missions fixes notamment, et donc qui connaissent déjà un peu les thématiques que transmet l'association, donc notamment sur la pollution, la sensibilisation. Donc en fait voilà, en mélangeant tous ces équipages, on a un peu tous des choses à s'apporter. Et donc là par exemple, ça fait une semaine que l'équipage est constitué et arrivé à bord. Et donc depuis une semaine, ben on alterne nos journées entre le matin, on prépare le voilier pour la navigation. Donc ceux qui connaissent pas découvrent un peu voilà comment se hisse une voile, quels sont les différents cordages, quels sont les différents équipements qu'on utilise à bord, notamment pour la sécurité. Et après le reste du temps de la journée, on, on parle un peu de voilà de des interventions qu'on va faire, de on se forme un petit peu sur la thématique de la pollution plastique, de comment on fait pour voilà rencontrer des publics, leur transmettre ses connaissances et l'envie de s'investir pour protéger les océans. Et donc voilà, chaque bénévole transmet ses connaissances aux autres et sans hiérarchie, sans différence. Donc ça permet voilà des grands moments d'échange et de partage à bord du bateau là toute la journée, toute la semaine passée et les semaines qui vont arriver aussi.
Est-ce que vous-même vous apprenez des choses qui peuvent vous être utiles après pour vos autres missions professionnelles le reste de l'année?
Ouais, bien sûr, pour tout, hein, sur tous les domaines, ne serait-ce que sur des connaissances sur les thèmes donc de la pollution, des idées par exemple pour du zéro déchet, des choses qu'on pourrait transmettre, et aussi c'est vrai qu'on était avec Jules tout à l'heure et la cuisine aussi c'est important parce qu'on découvre plein de choses, des idées, des plats, des manières de changer un peu notre manière aussi de consommer. Donc tout ça c'est des choses que derrière on peut essayer de transmettre petit à petit en semant des graines dans son entourage, avec les personnes avec qui on travaille, on leur donne nos idées, etc. Donc oui, bien sûr, c'est des connaissances qu'on acquiert à bord et que on arrive après à transmettre et à partager.
Et ben on va continuer à en parler dans un instant sur France Bleu La Rochelle de l'association Wings of the Ocean avec Théo et Guillaume qui seront donc à bord du Scylla. On va voir quelles sont vos différentes actions aussi de sensibilisation auprès du public, comment ça se passe. On en parle sur France Bleu La Rochelle. On continue à parler de l'association Wings of the Ocean ce matin dans Bienvenue chez vous avec Théo et Guillaume qui font partie de l'association et qui vont donc embarquer à bord du Scylla. Enfin, vous êtes déjà d'ailleurs à bord, hein, mais en étant à quai à La Rochelle. Quelles sont les missions de sensibilisation? Auprès de qui est-ce que vous allez intervenir pendant toute cette période de mission sur le Scylla?
Alors nous, on a différents types d'interventions. Le credo de l'association, c'est à la fois comprendre et faire comprendre. Donc, dans le cas de tout ce qui est pollution, des déchets sauvages et notamment plastique, comprendre, donc ça passe par des ramassages de déchets, des collectes de déchets qu'on va pouvoir faire à la fois avec du grand public ou des scolaires. Et derrière, on va caractériser ces déchets, c'est-à-dire on va les trier, analyser les typologies de déchets qu'on va retrouver, voir s'il y a des déchets indicateurs qui ressortent, faire des rapports et les transmettre après à la fois sur des plateformes de sciences participatives au niveau national, mais aussi auprès des partenaires publics, des villes dans lesquelles on s'arrête.
C'est quoi un déchet indicateur, par exemple?
Alors les déchets indicateurs, c'est les déchets qui vont ressortir en grande quantité, ou en volume en tout cas, sur un lieu donné. Donc ça peut être dans une zone urbaine, une concentration de mégots. Et après d'ailleurs, on va essayer de comprendre pourquoi il y a une concentration de mégots à cet endroit-là. Ça peut être des déchets alimentaires, des emballages alimentaires, voilà. Ça peut être tout type de déchets, mais qu'on va retrouver de manière significative sur un lieu donné. Au-delà de ça, après on a des actions de sensibilisation qui sont à la fois pour le grand public et pour les scolaires. Et l'avantage d'avoir un bateau, c'est que ça permet de faire plein de choses. Et donc le bateau est un outil de sensibilisation en lui-même. Donc on va accueillir les scolaires ou le public à bord du bateau. Pour les scolaires, on a tout un programme avec des ateliers à bord. Et pour le grand public, on les accueille, donc tout ça gratuitement. On les accueille à bord, ils ont une visite pédagogique. Donc au fil de la visite du bateau, ils vont apprendre plein de choses sur le fonctionnement de l'océan, les déchets, l'impact du plastique sur la biodiversité et aussi potentiellement les solutions.
Qui se charge du coup des visites, de la sensibilisation? Est-ce que vous êtes tous concernés sur le bateau? Comment ça se passe?
Alors c'est aussi une des spécificités de l'association, c'est que tout le monde met la main à la pâte, que ce soit marin, chargé de projet, donc les salariés ou les bénévoles. Tout le monde y va avec ses compétences, son envie et sa bonne humeur. Et on a des temps de formation bien sûr en amont avec la personne, donc Guillaume, qui est chargé de sensibilisation en interne de l'association et qui vient former tout ce petit monde avant le lancement des missions.
Guillaume, vous parliez des déchets que vous voyez aussi dans la navigation, notamment sur l'embouchure des fleuves. Est-ce qu'on retrouve des déchets qui viennent plutôt du coup de la mer ou plutôt de la terre et qui sont partis par les rivières, par les fleuves ou par l'océan tout simplement?
Ouais, mais c'est ce qu'il faut se dire en fait, c'est qu'une grande majorité des déchets qu'on retrouve dans la mer, en fait, forcément, ils ont une origine terrestre puisqu'ils sont issus de l'activité humaine. Donc voilà, faut se dire que n'importe quel déchet qui va être jeté n'importe où sur Terre, en fait, par le simple fonctionnement du cycle de l'eau, en fait, va finir à un moment ou un autre, emporté par les vents ou par les fleuves, les rivières, va finir un moment dans l'océan. Donc il y a des statistiques, hein, qui ont été faites par des équipes de chercheurs, et notamment il en est ressorti que voilà 80% des déchets qu'on va retrouver en mer viennent directement en fait sur une origine terrestre. Mais après, ça veut aussi dire du coup qu'on a aussi 20% des déchets qu'on trouve en mer qui eux viennent en fait directement des activités de la mer. Donc ça montre que voilà il y a un peu deux combats à mener. Il y en a un, bien évidemment, à terre. C'est pour ça que nous, c'est celui qu'on a privilégié, c'est d'aller à la rencontre des publics, etc. Donc, éviter effectivement que ces déchets finissent dans la nature. Et il y a aussi, voilà, tout un combat à mener auprès donc des activités maritimes. Donc, que ce soit la pêche ou la plaisance ou toute la marine professionnelle. Donc, d'essayer, voilà, de faire attention à limiter les déchets qui peuvent finir dans les océans.
Et est-ce qu'en étant hacké sur des lieux clés comme ça, forcément, que vous retrouvez dans les ports, vous avez aussi l'occasion peut-être d'échanger avec vos voisins de quai et de les sensibiliser aussi?
Oui, bien sûr, ça arrive.
On va continuer à en parler dans un instant sur France Bleu La Rochelle, l'association Wings of the Ocean qui va partir avec le bateau Le Scylla depuis La Rochelle, donc pour des missions de sensibilisation et de dépollution aussi de notre littoral français. On va parler des différentes étapes aussi qui vous attendent dans les prochaines semaines, comment va se passer ce voyage. On continue à parler de l'association Wings of the Ocean qui va bientôt partir en mer pour sensibiliser, eh bien, à la dépollution, à la préservation de notre littoral et de nos beaux océans et mers aussi qui nous entourent un peu partout en France. Théo et Guillaume sont à nos côtés pour en parler. Quel est le programme du coup des prochaines semaines? Le bateau va bientôt partir. C'est quoi un petit peu l'échéance, le calendrier qui vous attend?
Alors, le départ est prévu pour le 1er ou le 2 avril, donc ça s'approche. Le bateau est bientôt prêt. On a passé 2 semaines avec toute l'équipe à tout fignoler. Il y a toujours des petites choses urgentes à finir. Et on part pour Douarnenez, pour l'escale numéro 1. On va faire un total de 8 escales, oui. Avec cette année un objectif de participer à plusieurs événements maritimes. Donc, Douarnenez ne sera pas forcément le cas, mais on enchaîne sur l'escale numéro 2 à Fécamp, où il y a Fécamp Grand Escale, qui est un grand rassemblement de vieux gréements.
Et donc du coup là, ce sera quoi le programme? Le public sera pas forcément tout à fait le même que ceux que vous allez rencontrer à Douarnenez peut-être.
Exactement, Douarnenez. Du coup, on va être sur la période pré-vacances scolaires, donc on va essayer d'accueillir des scolaires à bord et profiter de cette période-là. Et Fécamp, on sera plus sur la période vacances, et donc là, sera plus ouvert au public. Donc il y aura des enfants aussi qui viendront, mais dans un cadre familial, accompagnés par leurs parents.
Et vous remontez jusqu'où comme ça?
On va jusqu'à Dunkerque, donc difficile d'aller plus au nord, c'est possible encore, mais en tout cas sur la façade française, on monte bien. Et puis ça se joue entre La Rochelle et Dunkerque, avec le plus au sud, sinon c'est Nantes, où on va s'arrêter.
Guillaume, vous, c'est des escales et de quelque chose que vous pratiquez dans la vie professionnelle. Vous allez naviguer dans ce coin-là aussi ou pas du tout? C'est un parcours un peu plus changeant.
Ouais, je sais pas si une fois que j'aurai quitté le bateau le Scylla fin avril, je sais pas si on aura l'occasion de se croiser peut-être dans un port. On verra, ouais, sur les événements maritimes peut-être.
Parce que vous allez rester du coup sur tout le mois d'avril.
Oui, c'est ça, je reste pour la navigation, donc là jusqu'à Douarnenez, et ensuite pendant toute l'escale à Douarnenez, donc où il faudra un peu s'imprégner, ouais, du tissu local, rencontrer un peu les acteurs locaux, donc les écoles, et on verra, on aura une belle place au port, j'espère, et ce sera l'occasion de donner beaucoup de visibilité à l'association et à notre projet.
Vous avez déjà eu l'occasion de visiter Douarnenez l'un et l'autre, ou ce sera une première?
Oui, moi j'y suis déjà allé, j'ai des amis qui habitent là-bas, donc c'est aussi l'occasion de les voir.
Ouais, pareil, mais en arrivant par la façade maritime, c'est pas la même chose du coup. On a toujours une approche différente quand on arrive dans un port par la mer, par rapport à si on était arrivé en train ou en bus. Ouais.
Et après, comment ça se passe pour vous, Guillaume? Vous retournez à vos obligations professionnelles, et après vous pouvez réintégrer une mission de bénévole au bout de combien de temps? Ça s'anticipe aussi peut-être par rapport à tout ça?
Ouais, bah c'est ça, bah j'arrive heureusement à jongler entre mon temps libre et effectivement mon travail à côté. Donc là, effectivement, si je quitte la mission fin avril, c'est aussi pour me laisser un petit peu de temps, de prendre un peu de vacances et un petit peu de souffler, parce qu'on peut pas non plus enchaîner les missions bénévoles et le travail. Et après, effectivement, je verrai en fonction dans l'année si je trouve un petit moment, un temps libre, quelque chose pour rejoindre, ben du coup soit l'équipage du Scylla en fonction des besoins, ou peut-être une autre mission de l'association. On verra ce qui se propose. Puis sinon, j'ai toujours la possibilité aussi de participer peut-être à une antenne locale. Donc du coup là, c'est plus des engagements ponctuels en fonction des disponibilités de chacun. Ça peut être juste quelques heures par semaine ou sur le mois.
On va parler un petit peu de musique. Est-ce que la musique a une place importante à bord quand on est une dizaine? C'est pas toujours évident de se décider sur le côté loisir, mais ça fait partie du truc aussi, Théo.
Ça peut faire partie, ça, en tout cas ça participe à la bonne humeur. Je pense que les moments qui sont souvent dédiés à écouter de la musique, c'est pendant les temps de vaisselle, où par binôme, on va aller faire la vaisselle de tout le repas de tout l'équipage. Et c'est en général à ces moments-là, et puis ça peut être sur des temps de navigation aussi quand la météo le permet.
Et on n'oublie pas les manœuvres et que on apprend un petit peu, on essaie d'apprendre un peu, de transmettre un peu les chants de marin aux non-initiés pour ça aide pendant les manœuvres, surtout sur un voilier.
Vous avez le répertoire, déjà la playlist est prête.
ça commence assez top.
Bon, c'est pas un chant de marin qu'on vous avez choisi d'écouter ce matin. On est sur un titre de Gaëtan Roussel et M en duo que vous avez découvert comment, Guillaume?
À la radio.
Tout simplement.
Voilà.
Ça s'appelle On ne pleure pas dans l'eau et c'est donc votre choix musical. On l'écoute tout de suite sur France Bleu La Rochelle et on continue à parler de l'association Wings of the Ocean dans un instant, juste après avoir écouté donc ce duo entre Gaëtan Roussel et M.
Si on se dit qu'on n'est pas vraiment d'ici, c'est quoi toi, c'est quoi ton pays? Si on se dit qu'on n'a pas tout réussi, c'est où ton ici? C'est peut-être une étoile filante, un bout de tissu, une tente. C'est peut-être une villa sur les pentes, un bout de toi, une attente. Si on se dit qu'on a tout, on n'a pas l'envie. C'est quoi toi, c'est quoi ton avis? C'est quoi toi, c'est quoi qui t'adoucit? C'est peut-être le miel qui t'apaise, ou peut-être le ciel, les falaises, ou au bord de la mer, un îlot. On dit qu'on ne pleure pas dans l'eau. 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 On dit qu'on ne pleure pas dans l'eau.
On ne pleure pas dans l'eau. Dans l'au-delà, tout là-haut.
Puis on se dit que tout va s'arranger. Qu'on ira glisser sur les sommets. On se dit qu'on remonte, on descend. Inconnu, que les voyages à venir imprévus sont des pages à lire, non lues. On dit qu'on ne pleure pas dans l'eau. On dit qu'on ne pleure pas dans l'eau. On dit qu'on ne pleure pas dans l'eau. On dit qu'on ne pleure pas dans l'eau.
Tiens compagnie.
La mer nous éloigne, nous unit.
Le ciel nous rappelle chaque nuit
que la partie se joue réunie. On dit qu'on ne pleure pas dans l'eau. On dit qu'on ne pleure pas dans l'eau. On dit qu'on ne pleure pas dans l'eau. On dit qu'on ne pleure pas dans l'eau.
Gaëtan Roussel avec M, on ne pleure pas dans l'eau sur France Bleu La Rochelle, c'était le choix de nos invités, Théo et Guillaume de l'association Wings of the Ocean qui va donc bientôt partir en mer avec le SILA pour sensibiliser notamment eh bien, à la dépollution. Comment ça se passe aussi pour l'association pour vivre à l'année? Vous fonctionnez avec des mécènes, des personnes qui vous soutiennent sur des partenariats?
Alors aujourd'hui, tous les projets de l'association, donc il y en a 8 en parallèle partout en France, à la fois sur la façade méditerranéenne et atlantique, c'est du mécénat privé, donc c'est beaucoup d'entreprises qui décident de nous soutenir. On a aussi des subventions publiques et subventions territoriales de manière un petit peu plus faible. Aujourd'hui, par exemple, le projet du SILA est financé via un partenariat avec le groupe Léa Nature, donc qu'on peut voir quand même pas mal sur La Rochelle, qui existe depuis plus de 30 ans et qui nous aide à mener ces opérations de sensibilisation et de dépollution sur la façade atlantique.
On peut identifier votre bateau aussi grâce aux locaux sur le Vieux-Port.
Oui, bah, le bateau est bassin des Chalutiers, donc le bassin à côté de l'aquarium. C'est un grand bateau blanc donc de 28 mètres, comme on disait tout à l'heure, avec effectivement les logos du partenaire La Nature dessus.
Mais pour vous, ça fait partie aussi des missions, Théo, d'aller rechercher comme ça d'autres partenaires potentiels. C'est quelque chose qui est ancré aussi dans le... pas le quotidien, mais presque, de cette recherche de fonds.
Alors, sur la recherche de fonds, on a quelqu'un en interne dans l'association qui s'y colle, donc c'est Nicolas. C'est quand même un travail à temps plein, et d'autant plus qu'on essaie de mener des partenariats avec des entreprises qui quand même partagent des valeurs communes. C'est quand même assez important. Là-dessus, on peut être un soutien pour lui, mais ça fait partie de son job au quotidien, et puis il est épaulé par une équipe aussi.
On termine toujours cette émission par un coin coup de cœur, un peu carte postale. Est-ce que vous avez eu l'occasion de visiter un petit peu La Rochelle, les alentours ou la Charente-Maritime, Guillaume? Ça fait pas très longtemps que vous êtes arrivé quand même à La Rochelle.
Un petit peu plus d'une semaine, mais si, du coup, on a forcément toujours un petit peu l'occasion de visiter un petit peu les alentours autour du navire et autour du port. Ouais, ben la semaine dernière, on est passé notamment au port des Minimes sur La Rochelle. Et bon, même si c'est pas très très loin, mais voilà, même ayant vu pas mal beaucoup de ports de plaisance un peu partout, même dans l'Atlantique, aux Açores, aux Canaries. C'est vrai que je ne m'attendais pas à La Rochelle, sur la façade atlantique, là, à avoir une telle forêt de matures et autant de voiliers réunis sur un même lieu. Donc, ouais, c'est
ça vous plaît.
Un endroit assez impressionnant. Ouais.
Et vous, Théo, en étant installé depuis quelques mois à La Rochelle, vous avez pu un peu explorer et avoir des coins un petit peu coup de cœur pour vous balader?
Moi, j'aime beaucoup aller sur l'île d'Oléron, que ce soit pour me balader ou faire du surf. Enfin, en tout cas, à mon petit niveau, faire du surf.
L'association Wings of the Ocean, vous allez donc bientôt partir en mer avec le Scylla. Est-ce qu'on peut suivre cette aventure? Vous nous parliez en début d'émission de photos, de vidéos. Il y a un suivi un petit peu sur les réseaux sociaux où vous restez connectés?
Oui, alors vous pouvez nous suivre déjà sur le site internet de l'association, donc wingsoftheocean.com, et sur le compte Instagram Wings of the Ocean.
Tout simplement.
Et vous verrez aussi toutes les autres missions de l'association qui vont bientôt se lancer.
Pour rester informé de l'actualité. Merci à tous les deux, en tout cas Théo et Guillaume, d'être venus ce matin dans nos studios de France Bleu. À très bientôt et bon voyage.
Merci.
Vous pouvez retrouver cette émission en podcast sur francebleu.fr.